Alors Julien Sapori, vous êtes historien français, né à Trieste en Italie en 1953 et vous êtes professionnellement dans la région, près de Maubeuge je crois, et vous êtes commissaire de police.
C'est cela, oui, je suis commissaire de police depuis 1984. J'ai occupé divers postes, d'abord en région parisienne, notamment à la police judiciaire, et depuis donc septembre 2010, je suis en poste à Maubeuge, dans le département du Nord, donc je viens ici en voisin, si on peut dire.
Et vous êtes en même temps historien ?
Et je suis en même temps historien. Je n'oppose pas les deux fonctions. J'ai toujours considéré que mon métier d'historien était en quelque sorte la continuation de ma profession de commissaire de police, car à travers mes livres et mes articles, généralement, je poursuis une réflexion personnelle sur mon métier, sur la police, sur la justice, sur les politiques sécuritaires, sur les relations complexes et controversées entre le maintien de l'ordre et la liberté.
Alors nous allons parler d'un de vos livres qui s'intitule Le soupçon, 1928, l'affaire Pavane-Savorelli, fasciste et antifasciste en France, fasciste et antifasciste italien en France. Alors vous partez d'un fait qu'on pourrait fait divers ou fait politique. Le 14 mars 1928 à Paris, un informateur de la police politique italienne, mussolinienne, donc fasciste, Angelo Savorelli, qui était assassiné par un antifasciste de la première heure qui s'appelle lui Alvise Pavane. Et on apprend plus tard qu'il est lui aussi devenu un informateur de la même police politique italienne. Alors, un fait qui paraît quand même très curieux, deux informateurs finalement dont l'un assassine l'autre.
Oui. À l'époque, le fait divers, comme vous dites, avait fait un certain bruit et il avait fait la une, donc à la fois au moment du meurtre et puis l'année suivante, en 1928, au moment du jugement devant la cour d'assises de la Seine. On en avait beaucoup parlé, les quotidiens français et italien y avait accordé une certaine importance, puis finalement l'affaire est tombée dans l'oubli. Je l'ai exhumé aux archives de la préfecture de police et j'ai eu le plaisir donc de pouvoir être le premier historien a consulté ce dossier qui jusqu'à ce moment-là n'était pas communicable en raison des délais légaux prévus par la loi. Et j'ai aussi découvert, grâce à l'enquête méticuleuse diligentée par la brigade criminelle de la police judiciaire de l'époque et en procédant à des recoupements avec les archives de la police politique italienne à Rome, j'ai ainsi découvert une réalité qui à première vue peut paraître assez déroutante, comme vous venez de le signaler, à savoir deux espions, le premier qui tue le deuxième. On peut se dire que c'est une histoire de vaudeville, d'un intérêt assez limité entre individus qui, de toute manière, ne sont dignes que du mépris. En réalité, je crois que l'affaire était beaucoup plus complexe. Et la victime, Angelo Savorelli, était, comment peut-on dire, un espion patenté, avéré, patenté, et qui avait donc décidé de devenir un informateur de la police politique italienne, c'est-à-dire fasciste, essentiellement pour des raisons financières. Si vous voulez, c'est l'emblème parfait du traître absolu. l'auteur du meurtre, c'est une autre paire de manches. Moi, je le considère davantage comme une victime d'une manipulation très habile montée par la police italienne, mais davantage encore, Alvise Pavan a été la victime du désarroi que connaissait à cette époque l'opposition antifasciste italienne, qui avait véritablement, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, le sentiment d'avoir perdu non seulement les guerres, non seulement les batailles, mais même la guerre contre le fascisme. Et la police politique italienne donc, a été extrêmement habile et a réussi donc, à ramasser dans ses filets un grand nombre de militants cassés, désabusés politiquement, moralement, qui étaient tombés dans la misère et qui avaient accepté, en désespoir de cause, de collaborer du bout des lèvres, si on peut dire, avec le régime fasciste de manière à survivre. Voilà, Alvise Pavan faisait partie de cette catégorie. Sa trahison ne fait pas de doute. Contrairement à ce que certains historiens italiens ont écrit récemment encore, elle ne fait pas de doute. Les archives parlent de manière extrêmement, extrêmement claire, mais je lui ai trouvé beaucoup d'excuses. Et j'espère avoir réussi à rendre l'aspect profondément tragique de ce personnage.
D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous présentez très fortement le contexte politique, la victoire qui, dans un premier temps, pouvait apparaître comme provisoire de Mussolini en Italie et qui est confirmée. Il y a même un référendum, vous dites, le peuple est passé du côté du fascisme et l'opposition, les antifascistes en masse se réfugient en France. Et c'est ce désarroi qui crée la possibilité que des opposants passent au statut d'informateur de la police politique fasciste, qui est très présente en France.
Absolument. La France était la terre d'exil pour un grand nombre de ces antifascistes. C'était la première terre d'exil. D'autres étaient partis en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais la grande majorité s'est trouvée en France et plus particulièrement à Paris, où on retrouvait toutes les structures des partis politiques et des syndicats antifascistes italiens en exil. On a trop souvent tendance à enjoliver l'histoire de l'antifascisme et s'imaginer que le peuple italien, les 40 millions d'Italiens, donc, étaient dressés à la quasi-unanimité contre un régime fasciste qui survivait uniquement grâce à la terreur. C'est absolument une caricature. En réalité, le régime fasciste disposait, c'est dur à dire, mais c'est la vérité, d'une base populaire extrêmement solide, qui était un mélange d'adhésion, d'indifférence et de fatalisme. Et les antifascistes, les véritables militants antifascistes, à la fin des années 20, au début des années 30, étaient vraiment une petite minorité agissante qui, très souvent, donc, vivait très mal leur opposition, un mélange de désespoir politique et de misère économique. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence dans mon travail. Je crois que là, c'est relativement original, sans prétention. C'est une caractéristique du régime fasciste qui n'a pas été, jusqu'à une époque récente, suffisamment soulignée. Je vous parlais à l'instant de l'importance de l'adhésion ou de l'indifférence du peuple italien. Et bien, cette adhésion ou indifférence ne s'est manifestée pas au plan politique, puisque les élections libres n'existaient plus, et s'est manifestée d'une manière massive par les indicateurs. le recours à l'indicateur, aux indicateurs est vraiment, selon moi, un des traits distinctifs de la dictature fasciste. Les collaborateurs, dans les années 20 et 30, en Italie, furent extrêmement nombreux. Beaucoup, beaucoup plus que la liste des 644 indicateurs officiels qui étaient publiés dans le journal officiel de l'Italie en 1946. En réalité, ils étaient des milliers, voire des dizaines de milliers, et beaucoup plus encore qui auraient souhaité sans doute le devenir. Et là-dedans, donc, on trouve toutes sortes de motivations. Il faut donc se dégager de cette image caricaturale du traître Iago, le malfaisant, qui agit uniquement par haine et par argent. Il y en avait, certes. Mais pour beaucoup d'autres, il y avait d'autres motivations infiniment plus complexes, certains relevant du domaine de la politique. Et il y a eu des indicateurs au plus haut niveau des opposants antifascistes italiens. Il y a eu des leaders antifascistes qui sont devenus des informateurs de la police politique italienne. Leur motivation n'était pas le règlement des comptes, c'était pas la haine ou l'argent, c'était un mélange, comme je le disais, de désespoir et aussi peut-être la volonté, l'ambition de pouvoir peser de cette manière-là sur la vie politique. Par exemple, en dénonçant des communistes, pour ceux qui étaient anti-staliniens.
Alors pour ajouter au caractère déroutant de l'objet de votre livre et de votre livre lui-même, vous mettez en exergue, dans les premières pages de votre livre, vous le dédiez à la mémoire d'Ignacio Silone et d'Alvis Pavan, dont vous venez de parler, militant antifasciste et informateur de la police politique italienne.
Voilà, informateur pluriel, tous les deux, oui. Donc l'histoire d'Ignacio Silone est absolument extraordinaire. Ici, en France, cet écrivain italien n'est pas très connu. Il est décédé donc dans les années 1970, mais à l'époque, donc je parle des années 1940-1950, il a été traduit dans une vingtaine de langues. Ses romans étaient des véritables best-sellers qui ont été édités à des millions d'exemplaires aux quatre coins du monde. Je pense notamment à certains romans dans lesquels il décrit la montée du fascisme. Ignacio Silone a été non seulement un romancier, mais un antifasciste de la première heure. Il était antifasciste avant même l'invention du fascisme, puisqu'il a adhéré dès 1914 au Parti socialiste italien. Ensuite, en 1921, il est passé du Parti socialiste au Parti communiste italien. Et il a atteint les niveaux les plus importants dans les rangs du Parti communiste italien. Il était parmi les 4 ou 5 leaders les plus importants. Et cet homme, d'un courage moral remarquable, qui a passé sa vie en exil, au début des années 30, donc, a tourné le dos à la politique. Il a condamné de manière extrêmement ferme les dérives du communisme vers le stalinisme, et à partir de ce moment-là, il est devenu, comme il s'est qualifié lui-même, communiste sans parti et chrétien sans église. Voilà, donc cet homme, ce géant de la littérature et de la politique italienne, et bien voilà qu'il y a quelques années, chercheurs italiens ont découvert qu'il était pendant des années un indicateur de la police politique italienne. Je ne vais pas dire au solde, parce qu'apparemment il n'a pas touché d'argent, mais il a été manipulé pendant des années, y compris donc, et surtout quand il était en exil. Donc il n'y avait plus aucun moyen à ce moment-là pour pour exercer sur lui des pressions policières, style torture, prison, etc. Il était en exil, il était libre de ses mouvements, de ses pensées, et bien il a continué à alimenter en renseignement la police politique italienne. Donc, vous voyez, on ne peut pas se résumer à une image caricaturale de ces indicateurs, et il faut aller au fond des choses, essayer de comprendre quelles étaient leurs véritables motivations. C'est ce que j'essayais de faire avec Alvise Pavan.
Un dernier mot, il y a un des personnages qui intervient dans votre livre qui m'a particulièrement intéressé, c'est la figure de Camillo Berneri, oui. Anarchiste antifasciste, et qui met au point en fait des méthodes qu'on peut contester, mais en tout cas qui vise à déminer le terrain, un petit peu à essayer de découvrir quels sont les espions au service de la police politique italienne.
Oui, Camillo Berneri, c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé, et donc c'est ce militant anarchiste de la première heure, lui aussi, auquel il faut reconnaître un très grand courage politique, moral, physique même, qui a passé de sa vie en exil, avait monté donc un réseau de police politique antifasciste en France, en Belgique, en Allemagne, à l'époque de la République de Weimar, et son but était donc de dénoncer, de démasquer les espions fascistes. C'est lui sans doute qui a démasqué Alvise Pavan et qui l'a armé, qui l'a poussé au crime, en passant sans doute avec lui le contrat suivant: je sais ce que tu as fait, mais tu peux te racheter en exécutant l'espion patenté Angelo Savorelli. Alors, je parlais de arroseur arrosé. Pourquoi ? Ben, parce que Camillo Berneri a été un peu la victime de cette machine qu'il a mis en place. C'est un peu paradoxal. Certains déjà à l'époque signalaient la contradiction. Un anarchiste qui crée une police. Hein. Et il y a une certaine incompatibilité entre ces deux termes. Il a été la victime de cette incompatibilité, puisque en 1936, en exil en Espagne, il a été une nuit arrêté par la police politique soviétique et exécuté. Exécuté en tant qu'anarchiste parce qu'il campait sur des positions hostiles à la politique de Moscou.